Radio Kapi, un partenariat entre la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Les mauvaises pratiques des pêches détruisent les zones de reproduction des alevins et entraînent souvent la baisse des productions des poissons sur le fleuve Congo, les lacs et autres cours d'eau de la République démocratique du Congo. Alors, comment pratiquer la pêche tout en respectant les cycles de reproduction des poissons? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Madame Françoise Ansey, ingénieure agronome, gestionnaire de projet au Fonds mondial pour la nature. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons aujourd'hui des bonnes pratiques des pêches. Quelles sont ces pratiques?
Eh bien, donc moi, je peux surtout vous parler de l'expérience que je connais un petit peu comme gestionnaire de projet pour donc WWF Belgique, le Fonds mondial pour la nature, qui cofinance avec la coopération belge un projet qu'on appelle Jambadjal et qui est en Kitomba, la langue, notamment une des langues qui est pratiquée au lac Maindombe, donc dans le nord du Bandundu, et qui veut dire « j'aime le lac ». Jambadjal, j'aime le lac.
Jambadjalé. D'accord, j'aime les lacs.
Et voilà, les pêcheurs maintenant crient souvent dans la rue maintenant, Jambadjalé. Et donc,
dans le Bandundu.
Dans le nord du Bandundu, oui. D'accord. Donc c'est un lac qui est juste, qui est situé en, juste en dessous du lac Tumba, et qui approvisionne la rivière Fimi, qui elle-même se jette dans le fleuve Congo. C'est un très grand lac, quand même, qui fait 130 km de long, et à peu près 2300 km2. Donc c'est un grand lac. Et donc c'est surtout là-dessus que, sur l'expérience de ce lac-là, dont je peux vous parler, parce que les pêcheurs m'ont parlé de ce qui se passait là-bas.
Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas?
Alors, ce qui se passe là-bas, c'est que donc nous, on est arrivés là à peu près à la demande de collègues congolais de WWF-RDC qui nous ont dit, voilà, les pêcheurs nous ont interpellés, il y a un problème de diminution des stocks de poissons. Et donc, en 2009, on est allé les rencontrer les pêcheurs, des hommes et des femmes, et qui nous ont raconté un peu ce qui se passait. Et donc, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de pêcheur est souvent, en fait, représente un peu les populations les plus pauvres qui gagnent bien maximum 3 $ par jour. Donc, c'est vraiment une population qui a des grandes difficultés en matière de revenus. Et donc, ils sont d'autant plus fragilisés quand il y a une diminution des stocks. Et en fait, les pêcheurs, donc, on a démarré ce projet avec la coopération belge en 2011. Donc il y a une première phase de 2 ans, et puis là on revient en 2014 pour une seconde phase, et c'est pour ça que je me trouve au Congo. C'était pour travailler avec eux sur la relance du projet.
Mais qu'est-ce qu'il y a à la base de la diminution des stocks des poissons?
Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui ont fait le constat. Ils ont fait en 2013 un carrefour des pêcheurs qu'ils ont organisé eux-mêmes avec l'appui aussi notamment de la PF et surtout du Senadep qui est notre partenaire. C'est une ONG congolaise qui est basée ici à Kine, qui a plusieurs bureaux un peu partout, et notamment une base à Inongo. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les pêcheurs? Ils nous ont dit, vous savez, jusque dans les années 80, avec 10 filets en pêchant une semaine, on pouvait ramener 1000 poissons. Maintenant, c'est l'inverse.
Au niveau du lac Tumba.
Au niveau du lac Maindombe. Voilà.
Okay.
Et donc maintenant, avec 1000 filets, on ramène 10 poissons. Donc c'est vraiment l'inverse. Avec 10 filets avant, on ramenait 1000 poissons. Et maintenant, avec 1000 filets, on ramène que 10 poissons. Et donc maintenant, ce qui est assez passionnant et ce qui est vraiment intéressant, moi, en revenant, je suis revenu tous les ans, mais en revenant maintenant avec trois ans plus tard après le démarrage du projet et au lancement de ce nouveau projet, c'est qu'on a vraiment senti une évolution des mentalités. Les pêcheurs, comme je le disais lors de ce carrefour des pêcheurs, ont vraiment identifié qu'ils avaient leur part de responsabilité dans la diminution des stocks et qu'il y a vraiment des pratiques de pêche. Et les témoignages des anciens, et même les témoignages des pêcheurs relativement jeunes actuels qui se souviennent quand ils étaient petits, qui disent, ben voilà, on sait que ce sont nos mauvaises pratiques qui ont une influence sur la diminution des stocks.
Oui, et quelles sont ces mauvaises pratiques?
Alors, ils nous ont fait la liste, hein, ils ont dit, on est conscient, on est clair. Donc, il y a premièrement l'utilisation de poisons qui stérilisent les petites rivières et les mares. Il y a l'emploi généralisé de moustiquaires au bout des scènes de plage pour attraper le petit fretin. Le problème, c'est qu'avec ces moustiquaires, ils attrapent pas seulement le petit fretin, mais ils attrapent aussi tous les alevins des autres poissons qui sont dans le lac ou dans les rivières. Et en plus, en étant sur la plage, ils raclent en quelque sorte tous les jeunes alevins et les œufs de poissons qui nichent et qui se reproduisent sur la plage. Ça, c'est une deuxième cause très importante. Mmh. Et ne parlons pas du fait que les moustiquaires sont imprégnés de produits insecticides aussi, très logiquement, dans leur première affectation, évidemment, c'est logique.
Oui.
La troisième chose, dirais-je, c'est aussi la généralisation de filets à mailles trop fine par rapport à la taille des alevins.
Une maille prohibée.
Oui, voilà. Donc normalement, des bonnes mailles devraient avoir au moins 6 cm de côté. Et c'est pas le cas. Elles sont beaucoup plus petites que ça. Et si c'est 6 cm, ça veut dire qu'on laisse passer les alevins, qui vont dans certains cas, donc qui sont des petits poissons qui peuvent peser 10 grammes, 20 grammes, mais qui pourraient donner des poissons de 40 kilos. Et donc ça veut dire que ce poisson de 30 grammes ben, ne deviendra évidemment jamais un poisson de 40 kilos. Mmh. Il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est l'absence de période de repos. Tous les anciens pêcheurs nous disent avant, il y avait une période de repos pendant la reproduction des poissons. Ça veut dire si on respecte une période de repos pendant la reproduction, ça veut dire qu'on ne pêche pas les géniteurs ou les femelles qui sont en train de pondre.
Je me rappelle, il y a des moments où le gouvernement, les autorités disent non à l'interdiction de pêcher pendant cette période, mais cette mesure n'est pas toujours respectée.
Alors, je pourrais vous donner d'autres exemples ailleurs, dans d'autres lacs où elle est respectée, mais effectivement, au lac Maïndombé, il n'y a pas de période de repos. Et je pourrais aussi vous dire ce que déjà les chefs de rivière du lac Maïndombé ont commencé à faire. Mais pour terminer dans la liste, j'irai des causes. Mmh. Il y a la destruction des zones de frayères naturelles. Donc, les frayères, c'est quoi? C'est des zones en bordure de lac, pas nécessairement en plein milieu du lac, mais en bordure de lac, où les poissons vont se cacher, vont protéger leurs œufs et leurs petits, et doivent pouvoir rester au calme pour se reproduire tranquillement, et en tout cas permettre le bon développement des alevins. Ça, c'est une autre chose très importante, et on verra après que les mesures que préconisent les pêcheurs sont vraiment en lien avec ces contacts. Et alors, la dernière chose, c'est vraiment un problème d'efficacité, je dirais, de la transformation. C'est comme le séchage et le salage des poissons n'est pas optimal, ne permet pas une bonne conservation, ils peuvent perdre jusqu'à 30% de leur stock de poissons et donc ils ont besoin de les renouveler. Donc au lieu d'avoir 100 poissons qui sont gardés, pour prendre un exemple exemplatif en l'occurrence,
ils perdent jusqu'à 30%, c'est
ils
beaucoup.
Peuvent, dans certains ils cas, peuvent, ouais. ils peuvent perdre et donc ne pas arriver jusqu'à la période de, enfin, ne pas terminer la période de soudure. Et donc avant la reprise de la pêche, lors de la saison pêche, la grande saison sèche, qui vient de se terminer, ils n'arrivent pas au bout. Et donc, ils sont obligés de retourner pêcher plus tôt que la période idéale pour pêcher.
Alors, vous venez là d'utiliser les mauvaises pratiques de pêche que ces pêcheurs vous ont rapportées. Vous avez parlé premièrement de l'utilisation du poison. Et pourquoi ils utilisent les poisons au niveau du lac?
Ils utilisent les poisons parce que ça permet de tuer ou de sonner ou de ralentir le poisson. Et donc le poisson remonte à la surface sur le dos et donc il est plus facile de le pêcher.
Et c'est quel type de poison qu'ils utilisent
pour tuer les poissons? Il y a plusieurs types, mais c'est souvent des préparations locales qui sont réalisées localement, quoi, avec une série de plantes qui peuvent être utilisées à d'autres fins. Mais qui, alors parfois, il peut y avoir des poisons issus du commerce. Et ce qui est par ailleurs très dangereux, c'est aussi simplement pour leur santé elle-même, quoi. Donc ça, on n'a pas du tout...
Est-ce que c'est pas aussi dangereux pour le consommateur?
Bien sûr. Potentiellement, c'est tout à fait dangereux pour le consommateur aussi, quoi.
Oui. Alors, c'est ça, c'est une pratique qu'il faut absolument mettre de côté.
Mais c'est vraiment ce que les pêcheurs disent. C'est une... En fait, ce ne sera pas la suppression d'une pratique, mais ce sera un ensemble de techniques qui vont ensemble permettre de réaugmenter les stocks de poissons. Parce qu'on voit qu'en fait, par exemple, je trouve qu'il est assez admirable dans les acquis du premier projet et dans la volonté des pêcheurs d'avancer, c'est quand je suis venu là, la semaine passée, j'étais donc à Inongo, et il y a plusieurs chefs de rivière, et coordonnés par un chef de groupement extrêmement efficace et motivé, qui ont déjà mis en place des périodes de repos et d'interdiction de poissons. Et donc, ils se sont battus, et des fois, des villageois même, des pêcheurs, ont interdit à d'autres pêcheurs de venir dans une zone qui était interdite à la pêche. Et en fait, on a déjà des constats qu'avec des périodes de repos, donc de non-pêche, en particulier pendant la période de reproduction, il y a un effet automatique d'augmentation des stocks de pêche. Donc, ce qui est assez génial avec le poisson, et donc on n'est pas arrivé à un niveau trop dramatique, mais si on ne met pas en place, c'est ce que les experts, on avait deux experts en pêche, donc professeur Moutamboué de l'université de Kinshasa et professeur Michel de l'université de Namur qui étaient là cette semaine aussi, qui sont encore ici jusqu'à mercredi, enfin à Inongo jusqu'à mercredi, qui disent si dans les trois ans on ne met pas en place des mesures drastiques en matière notamment de repos des poissons ou de période de non-pêche, on va arriver à un point de non-retour. Donc pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait au point de non-retour, ça veut dire une capacité des poissons à se reproduire dès qu'on les laisse au repos, mais il y a une urgence. Et là, c'est ça qui est passionnant, c'est que les pêcheurs s'en sont vraiment rendus compte. Quoi.
Bien. Quelles sont les bonnes pratiques de pêche à observer? Françoise Ansey, ingénieure agronome et gestionnaire des projets au Fonds mondial pour la nature est notre invitée. Des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer le 081 890 63 94 pour vous inscrire et nous allons tout de suite vous rappeler.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelles sont les bonnes pratiques de pêche à observer? Vous avez dit tout à l'heure, Françoise, qu'il y a des diminutions de poissons au niveau du lac Maïndombé. Vous avez dit tout à l'heure, avec 1000 filières aujourd'hui, ils n'ont que 10 poissons. Mais nous savons qu'ils pratiquent c'est la pêche artisanale. Ils n'ont pas des gros moyens pour attraper beaucoup de poissons. Est-ce que cela peut effectivement amener une diminution des poissons?
Oui, je dirais que le lac Maïndombé, en tout cas dans son histoire un peu dramatique en matière de diminution des stocks de poissons, a tout de même de la chance, parce que c'est un lac très peu profond. Et donc il n'y a pas de pêche industrielle. Et heureusement, je crois que s'il y avait de la pêche industrielle, ce serait déjà fini. Le métier de pêcheur, en tout cas le métier de pêcheur artisanal, serait déjà terminé. Et ce serait peut-être catastrophique, ce serait certainement catastrophique pour les familles de pêcheurs, clairement. Et qui aussi, pour info, se serait replié peut-être sur l'agriculture un peu intensive, et avec, je ne l'ai pas dit, mais ce lac est au milieu des forêts, qui représente vraiment un poumon, une partie du poumon du Congo, qui reste à protéger et qui serait aussi potentiellement menacé. Mais donc, ce qui est important, c'est de savoir que les pêcheurs, maintenant, ont proposé... c'est que le lac est très peu profond, et donc, pas de pêche industrielle, mais une pêche artisanale, qui est très importante. J'irai sur tout le bassin du lac Maïndombé. Donc la PFE avait fait une enquête avec le SENADEP, Service National de la Pêche, où ils ont identifié qu'il y avait à peu près 15 000 pêcheurs. Mais nous, on travaille surtout du côté du bassin d'Inongo, où il y a environ 10 000 pêcheurs. Mais à cette estimation, il faudrait aussi rajouter sans doute les pêcheurs qui viennent d'autres bassins de pêche et qui arrivent pendant la saison sèche dans des campements. C'est aussi des pêcheurs qui se trouvent sur les rivières, notamment l'Otoy, le Koro. Donc, il y a une augmentation du nombre de pêcheurs. Et ça contribue. Donc, même si la pêche paraît artisanale, il y a une pression qui est très importante.
Voilà, une pression très importante. Alors, après avoir identifié les causes de la diminution des poissons, quelles sont les bonnes pratiques vous avez sûrement eu à échanger avec ces pêcheurs. Et quelles sont les bonnes pratiques que vous leur proposez?
Et donc, les pêcheurs sont très lucides. Maintenant aussi, Madame Laté du coin, du territoire d'Inongo, le chef de cité, le CDD également sont bien conscients, et tout le monde est d'accord sur les bonnes pratiques qu'il faudrait mettre en place. Donc il y a quoi? Il y a premièrement des périodes de repos pour les poissons. Ça, c'est indispensable, c'est la première chose à mettre en place. C'est des filets à maille de minimum 6 cm, comme on vous le disait. Ça veut dire clairement plus de moustiquaires. Et ça veut dire aussi interdiction totale potentiellement des scènes de plage, parce qu'elles sont très destructrices. C'est la protection intégrale des frayères naturelles. Donc c'est les lieux de reproduction. On ne peut pas aller pêcher dans les nids, en quelque sorte, des poissons. C'est aussi une réglementation qui permet de soutenir un peu les démarches qu'ont entamées de manière très courageuse et ambitieuse le chef de groupement et les chefs de rivière. Et c'est un contrôle des réfractaires. Ça, c'est fait aussi. Donc c'est vraiment un travail collectif et qui va vraiment dans le sens du projet de code de la pêche au niveau national,
oui.
qui est véritablement une co-gestion participative des ressources halieutiques dans le lac Maïndombé. Et on a eu un atelier justement cette semaine, il y a déjà eu des réunions aussi avec différents niveaux de pouvoir, que ce soit des députés d'Inongo, il y a eu dans les années passées aussi, au cours des premières phases du projet, et toujours avec la PFE, des rencontres au niveau provincial, donc il y a des rencontres au niveau local, donc territoire et district. Tout le monde est bien conscient que c'est une action collective et une gestion collective avec les pêcheurs organisés qui pourra répondre, qui pourra mettre en place ces différentes pratiques proposées. Et oui. là, avec le petit panel qu'ils ont, je crois qu'on peut vraiment, vraiment mettre en place cela.
D'accord. Alors donc, cela vaut aussi pour les autres pêcheurs à travers le pays qui nous écoutent et qui utilisent, qui font recours aux moustiquaires. Ils doivent également abandonner ces pratiques parce que cela a des conséquences néfastes sur la pêche. Nous avons un premier auditeur en ligne. Il s'appelle Aimé Baloukou. Il nous appelle des Comanda. Aimé, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je salue notre invité qui vient nous intervenir aux questions.
Quelle est votre question, Aimé?
Oui, je voulais demander à l'invité quelles sont les méthodes qu'il faut appliquer pour bien économiser des espèces de poissons dans notre lac, tel que chez nous ici à Kassé, dans le lac Albert. Il y a des méthodes qui ne sont pas admises par le gouvernement, mais les gens utilisent par fraude, ces méthodes-là. Je voulais demander à notre invité de nous donner des conseils pour bien pratiquer la pêche sur notre lac du pays.
D'accord, merci. Comme Aimé Baloukou, qui nous appelle des commandes en Ituri et en province orientale. Voilà, c'est la même situation. Les pêcheurs des Kassegne recourent également utilisent les moustiquaires et recourent à d'autres méthodes qui sont prohibées pour attraper le poisson. Qu'est-ce que vous pouvez dire également à ces pêcheurs?
Mais donc, il y a des bonnes expériences qui existent au lac Mohiro et au lac Kivu. Et d'ailleurs, les pêcheurs du lac Maïndombé sont allés rencontrer les pêcheurs du lac Kivu, donc qui n'est pas très loin. Au lac Édouard aussi démarre des initiatives très intéressantes. Mais donc, je crois que la première chose à faire, c'est d'essayer de rassembler les chefs de rivière et les pêcheurs et de discuter ensemble sur le constat. Est-ce que vraiment chez nous, il y a des risques et il y a une diminution des stocks de poissons? Ça me paraît évident que c'est une première étape, parce que les pêcheurs sont conscients quand même, mine de rien. L'enjeu, c'est qu'ils le reconnaissent. Et donc chez nous, c'est vraiment quelque chose qui a été fait. C'est vraiment travailler avec les pêcheurs et les chefs de rivière dans un premier temps sur les constats. Comment évolue notre revenu? Comment évoluent les prises de pêche? Et je crois qu'il y aura sûrement des témoignages intéressants.
Et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut respecter la période des repos. Cette période intervient quand exactement?
Au lac Maïndombé, en tout cas, donc c'est un peu variable selon les écosystèmes des lacs ou selon le type climatique. Mais donc la Fédération des pêcheurs du lac Maïndombé et affluent, donc qui a été créée dernièrement et dont le président est Gratien Petit. Donc lui, ce qu'il me disait, l'idéal, en tout cas pour le lac Maïndombé, la première période importante, c'est octobre, novembre, décembre. Donc la grande saison de pêche, c'est la saison sèche. Donc elle vient de se terminer. Donc c'est de juin à août, septembre. Et donc pour info, elle a été très mauvaise cette année. Les pêcheurs sont vraiment un peu catastrophés parce qu'ils n'ont pas pêché grand-chose.
Oui.
Mais donc maintenant, ce qu'il faut, c'est certainement donc octobre, novembre, décembre. C'est une période en tout cas de reproduction. Et puis il y a février-mars où il y a une deuxième petite période aussi qui est intéressante en matière de repos des poissons. Comme ça, les pêcheurs bénéficient, j'irais, des deux saisons sèches, la grande et la petite.
Et la petite. Est-ce qu'ils vont réellement respecter ces deux périodes, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'autres activités. La seule activité qu'ils ont, c'est la pêche.
Oui, donc ça, c'est effectivement là où parfois on se dit, il faut peut-être pas aller trop vite, non plus. Faut tout de même être prudent. Mais on a démarré des activités alternatives. Et notamment, une des problématiques, c'est aussi avec les jeunes. Donc les jeunes sont sans emploi. C'est dans pas mal de cas, eux qui utilisent les scènes de plage. Et même les pêcheurs aussi ont besoin d'une activité. Et donc, on a démarré dans le précédent projet. On va vraiment renforcer ça en matière d'agropisciculture, peut-être d'élevage de crevettes, d'élevage de lapins ou d'associer lapins, canards et pisciculture, parce que ça reste leur métier. Mmh. Mais aussi voir peut-être d'autres alternatives en matière plutôt d'agroforesterie, d'agriculture compatible avec la forêt, ou d'essayer de produire des produits à haute valeur ajoutée, peut-être comme le Nitoum et comme nous le suggérait le professeur Mutambwe. Mais donc c'est quelque chose où il faut aller doucement. Il faut effectivement
trouver d'autres activités, des alternatives. Ouais.
Et donc il y a Kessenge, un des villages du lac, où notamment ils ont démarré un élevage de porcs. Et au bout d'un an, c'est impressionnant ce qu'ils ont déjà réussi à faire, quoi. Donc avec la production des porcelets et la vente de porcelets, ils ont déjà pu équiper pour partie l'ensemble des membres de l'association des pêcheurs avec des tôles pour les maisons. Donc ils sont d'une efficacité qui m'a assez impressionnée. Alors on doit travailler avec eux pour augmenter l'efficacité, pour les soins aux porcs, etc. Mais il y a des choses qui prennent, ils sont très dynamiques, je veux dire. Donc maintenant, on doit développer de nouvelles activités alternatives de revenus pour permettre vraiment ce repos-là. Mais de toute façon, vu comment ça évolue, les périodes en question, c'est pas ces périodes-là qu'on pêche grand-chose. Donc déjà cette année, en pleine saison des poissons, il n'y a pas grand-chose qui était pêché. Alors hors des saisons, malheureusement, il faut vraiment trouver des alternatives de revenus. Et en même temps, il y a une vraie urgence à faire reposer les poissons. Donc les pêcheurs nous l'ont dit aussi, ils ont besoin de ce coup de pouce d'alternatives de revenus. Et ils ont besoin d'un vrai coup de pouce. Et je crois que c'est en marche. Ça, le président des pêcheurs nous l'a dit, c'est en marche. Les autorités politiques maintenant et les administrations et la police fluviale sont conscients qu'il y a des choses qui doivent être mises en place. Et la décision leur revient.
Voilà. Quelles sont les bonnes pratiques de pêche à observer? Yvon nous appelle d'Ariwara, un professeur oriental. Vous voulez également participer? Composez le 081-893-94.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Nous parlons des bonnes pratiques de pêche à observer. Yvon, vous êtes à Ariwara. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je vais vous demander de fermer votre radio, s'il vous plaît, Yvon. Vous allez sur la partie de votre téléphone pour éviter ces retours à l'antenne. C'est fait?
Ah oui.
D'accord, allez-y.
Je voulais juste poser la question à notre invité du jour.
D'accord, merci. Allez-y.
Oui, je voulais savoir quelle est la bonne méthode dont on peut utiliser pour... Donc, l'avantage pour l'empêche, et ce que le désavantage de la pêche. Je voulais juste savoir cela.
Voilà, merci d'avoir appelé Yvon. Il veut savoir quelles sont les bonnes pratiques à utiliser. D'ailleurs, vous étiez déjà en train d'expliquer cela. Il faut observer une période de repos. Et puis, ne plus utiliser les moustiquaires, imprégner des insecticides pour attraper le poisson. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser à la place?
Mais donc, je veux dire, faut qu'il y a, les pêcheurs sont, il y a plusieurs techniques de pêche hein, qui existent. La pêche à la ligne, la pêche au filet. Il y a pas de problème pour la pêche au filet en tant que telle. Et ce qu'il faut, c'est avoir donc avec une maille suffisante, évidemment, pour laisser passer les alevins et pour garder les petits qui vont devenir les gros poissons de 30-40 kilos. Mais ce qu'il faut aussi, c'est protéger les frayères. Je veux dire, par-delà les techniques de pêche, il y a des zones où il ne faut pas aller, quoi. C'est les zones de reproduction.
Et vous avez dit les zones des frayères se trouvent au bord du lac.
Oui, voilà. Donc c'est sur les rochers en bordure de lac. Donc les poissons vont se cacher là en dessous. Enfin, selon les espèces, il y a un peu de tout. Il y a plusieurs zones. Il y a soit le bord du lac près des petits rochers, il y a les bords de plage également. Et il y a sous les racines des arbres. Comme le lac Maïndomé est entouré de forêts humides, les poissons vont vraiment se cacher sous les racines des arbres. Et les pêcheurs le savent bien, ils connaissent très bien leur biotope et ils savent où se cachent les poissons. Et même malheureusement, ils vont les chercher quand ils sont en train de pondre et en quelque sorte élever leurs petits.
Nestor est à Kinshasa, bonjour. Bonjour Nestor. Nestor, on va retrouver Nestor.
Allô.
Voilà, bonjour Nestor.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour à l'invité. Et j'ai une deux préoccupations plutôt.
Oui.
La première, c'est une question. Je suis un peu gêné de la poser parce que je suis congolais. Je voulais savoir si les lacs Maïndombé, l'eau est salée ou pas. Alors que normalement, je devrais connaître cette détail, mais je dois poser ça à un étranger. La deuxième préoccupation, c'est est-ce que les lacs Maïndombé, il y a des poissons capitaines et les poissons tilapia? S'il n'y en a pas, est-ce qu'on ne peut pas amener les poissons capitaines des lacs Albert ainsi que les tilapia et les ensemencer dans les lacs Albert de sorte qu'on puisse aussi commencer à produire les tilapia et les poissons capitaines dans ce lac qui est proche de Kinshasa?
D'accord, merci Nestor. Est-ce que l'eau est salée, Françoise? On peut se passer par là.
Alors ne soyez pas gênés, hein. Je veux dire, votre pays est tellement immense que moi je viens de Belgique et je serais pas capable de vous répondre sur tous les coins de Belgique. Donc ce pays est tellement immense que vous pouvez pas aller vérifier partout. Mais donc c'est un lac d'eau noire qui n'est pas salé. Voilà. Et donc c'est très agréable de s'y baigner. C'est très bon pour la peau et c'est des plages de sable blanc qui sont franchement merveilleuses si un jour vous avez envie d'aller vous baigner un peu là-bas. C'est un peu particulier l'eau noire au début, mais c'est tellement doux, c'est tellement agréable. Et ça n'a pas d'impact du tout sur le fait de se baigner, mais c'est un lac du fait de cela, un pH très acide. Donc la production n'est pas extraordinaire comme on pourrait l'avoir dans d'autres lacs.
Et quel est le type de poisson qu'on retrouve?
Alors il y a plusieurs types de poissons, hein. Donc il y a des tilapias, hein, notamment. La question a été posée de réapprovisionnement d'espèces dans le lac. Mais il faut toujours être très prudent dans le réapprovisionnement. Il y a beaucoup de poissons, il y a des poissons commerciaux, ce qu'il faut, c'est les soutenir. Mais par contre, dans l'introduction de poissons, on pense plutôt dans le développement de pisciculture. Parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de poissons par rapport au nombre de pêcheurs. Et donc, il faudrait que des pêcheurs...
Est-ce qu'on y trouve des tilapias?
Oui, on trouve des tilapias, on trouve du wenge, on trouve... je ne suis pas non plus la professionnelle de tout ça. On trouve du bocalia, des clarias, des ndakala, le petit fretin, du écoli, qui sont du colis qui est un gros poisson. Il y a eu un inventaire qui a été fait il y a à peu près 2 ans. Ils ont trouvé et c'est même pas exhaustif, plus de 100 espèces, donc plus de 100 individus pardon, avec une quarantaine d'espèces. Donc c'est assez, il y a un potentiel, mais c'est particulier parce que c'est un lac assez acide. Mais en matière de réintroduction, on reste toujours très prudent parce que il faut vraiment un peu voir l'impact. Mais voilà, il y a déjà dans le lac des poissons qu'on sait qui viennent de très loin et qui ont été réapprovisionnés par d'autres lacs ou dans d'autres rivières. Donc voilà. Mais par contre, l'idée est intéressante quand on imagine de faire des piscicultures et donc de produire des alevins et des poissons qui ont une bonne productivité, qui est peut-être un peu plus grande que certaines espèces qui se trouvent elles-mêmes dans le lac. Et donc c'est un peu vers ça qu'on s'oriente.
Et trouver aussi des espèces qui se reproduisent un peu plus vite que les autres.
Hein. Oui, bien sûr. Hein. Donc avec toujours ce petit bémol sur l'acidité du lac. Mais concrètement, il y a... Il y a moyen de faire une bonne productivité via l'agropisciculture. Donc, il faut vraiment associer la pisciculture avec la production de fertilisants par les lapins, par les canards éventuellement. C'est un peu technique, mais les pêcheurs sont tout à fait à même de maîtriser cette technique. Et on a donc pensé aussi à l'élevage de crevettes avec les mamans qui se sont montrées très intéressées par ça.
Voilà, vous avez parlé de la protection des ondes des frayeurs. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour mieux protéger ces ondes?
C'est un travail...
Parce que les pêcheurs eux-mêmes seront toujours tentés, bien qu'ils peuvent reconnaître qu'ils sont à la base, mais ils peuvent de temps en temps être tentés d'aller encore attraper le poisson.
C'est notamment pour ça qu'on a choisi de travailler, on a discuté avec eux, avec le CNADEP, le Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire, parce qu'ils ont une grande capacité de travail participatif, et c'est vraiment la base. Vous dites, il y a toujours des pêcheurs qui seront tentés. Quand on dit qu'il ne faut pas rouler à plus de 50 km/h, il y en aura toujours pour rouler à 60. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une majorité de gens qui roulent à 50 km/h. Et ça, c'est le travail du CNADEP avec la Fédération des pêcheurs et les différentes unions, de vraiment sensibiliser les pêcheurs en disant, si on ne fait pas quelque chose, c'est notre propre métier qui est en péril, quoi. Donc c'est vraiment, quand une communauté se rend compte qu'il y a un vrai danger, la communauté est capable de prendre des décisions. Alors il y aura sans doute toujours 10% de réfractaires. Et ça, c'était notamment l'objet de l'atelier qu'on a eu la semaine passée avec la police fluviale, avec l'AT, avec les administrations du niveau du district, en matière de pêche et d'agriculture, en matière d'environnement, au niveau du district, en matière d'agriculture et de pêche au niveau du territoire. De dire avec les pêcheurs comment ensemble on peut mettre en place une synergie de contrôle de ces réfractaires. Parce qu'il est vrai que ces 10% de réfractaires peuvent faire beaucoup de mal. Mmh. Et au lac Moïro, donc on n'y est pas encore allé, mais le projet est vraiment d'y aller avec les pêcheurs, ils ont réussi. Et donc si eux peuvent réussir, on se dit que le lac Maïndombé peut y réussir aussi, et tous les acteurs du lac Maïndombé.
Il faut sensibiliser les pêcheurs. Et à part la sensibilisation, quelles sont les mesures, les contrôles? Il faut instaurer également les contrôles.
Donc les contrôles, c'est ça qu'il y a des unités mixtes qui sont organisés au lac Moïro pour le faire. Et ce qu'il faut surtout aussi, donc c'est impliquer les chefs de rivière et les citoyens pêcheurs. On va cartographier l'ensemble de ces frayères sur le lac Maïndombé. Il y a déjà un premier travail qui a été fait, mais on va faire un travail beaucoup plus fin pour que les choses soient claires aussi. Il faut pouvoir dire clairement aux pêcheurs et que l'AT au niveau CDD ou provincial, on puisse prendre des dispositions réglementaires très claires pour des pêcheurs dans cet endroit, interdiction totale d'y aller. Et les pêcheurs, ils connaissent les frayères. Ils connaissent sur le bout des doigts. Ils savent très bien ce que c'est. Mmh. Ils savent très bien les zones sensibles. Et donc c'est la chose à faire. C'est la sensibilisation, de l'identification, un message clair, une réglementation et bien sûr du contrôle et de la sanction pour les 10% qui restent. C'est ça que demandent les pêcheurs et la Fédération des pêcheurs pour qu'un système comme ça soit efficace.
Alors ce qui est beaucoup plus important, c'est le développement des alternatives, d'autres activités alternatives pour qu'ils ne puissent pas plus faire pression sur le lac pour chercher à attraper des poissons et évidemment avoir de l'argent. Alors quand est-ce que vous avez déjà commencé à développer ces activités et ces alternatives?
Donc il faut véritablement un revenu alternatif aux pêcheurs pour qu'ils puissent diminuer un petit peu la pression sur le lac. Donc on a commencé une série de choses, donc un peu d'agriculture, un peu d'agroforesterie. C'est surtout ça qui est à développer pour faire passer l'agriculture à l'agroforesterie pour vraiment minimiser l'impact sur la forêt qui est une ressource aussi pour les populations locales. C'est de l'élevage et ça, je crois qu'ils ont développé de véritables compétences, même si a priori le pêcheur, et c'était ça une des innovations aussi toujours comme disait Gratien par rapport à la pêche, c'est qu'on a toujours cru que le poisson c'était une ressource illimitée. Maintenant on vient de comprendre que c'était une ressource limitée et qu'il va falloir la gérer. Et gérer des canards, gérer des lapins, gérer du porc, c'est ce même travail. Et donc aussi ça va être, et là on va démarrer très rapidement des premiers essais de pisciculture. Il y a des gens motivés, intéressés. On a identifié des sites, notamment Nkolobeke, qui est un endroit stratégique où il y a une association très dynamique, mais où il y a vraiment un questionnement par rapport aux jeunes. Et je crois que nous, on devrait être, et l'équipe de projet en est bien consciente, et les pêcheurs également aussi, qu'il y a vraiment des activités à développer avec les jeunes. Ça, c'est fondamental. Avec les pêcheurs plus âgés, bien entendu, et aussi impliquer les femmes. Et ça, avec les femmes, elles sont pleines d'initiatives, pleines d'idées, il faut vraiment les soutenir. Et une des pistes assez innovantes, mais ça va être pilote, et c'est pas nécessairement évident, donc on fera le point dans un an pour voir si si ça fonctionne, c'est de tenter de l'élevage de crevettes.
Bien, merci Françoise Ancé. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, gestionnaire des projets au Fonds mondial pour la nature. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci également. Au revoir.